du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique pour le troisième dimanche de Pâques. Ce même jour, le premier de la semaine, voici que deux d'entre les disciples se rendent à un village distant de 60 stades de Jérusalem, et dont le nom est Emmaüs. Ceux-ci parlent entre eux de tout ce qui est arrivé. Et alors qu'ils parlent et discutent, Jésus lui-même s'approche et fait route avec eux. Mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Il leur dit,
« Quelles sont ces paroles que vous vous lancez l'un à l'autre tout en marchant ?»
Ils s'arrêtent l'air sombre. Cléophas, l'un des deux, répond,
« Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui ne sait pas ce qui est arrivé ces jours-ci. »
Il leur dit,
« Lesquels ?»
Ils lui disent,
« Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui fut un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos chefs et nos grands prêtres l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, c'est le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. De plus, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont stupéfiés. Elles sont allées au tombeau à l'aube et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles ont même vu une vision, des anges qui le disent vivant. Certains de ceux qui sont avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. »
Il leur dit,
« Oh, sans intelligence et cœur lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ?»
Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Il s'approche du village où il se rendait. Lui fait mine d'aller plus loin. Il le contraignent presque en disant,
« Reste avec nous. Le crépuscule approche et le jour a décliné. »
Il entre pour rester avec eux. Et alors qu'ils se mettent à table avec lui, il prend le pain, dit la bénédiction, et l'ayant partagé, il leur donne. Leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, mais lui leur devient invisible. Ils se disent l'un à l'autre,
« Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait sur le chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?»
Ils se lèvent à l'heure même et reviennent à Jérusalem. Ils trouvent rassemblés les onze et ceux qui sont avec eux, qui leur disent,
« Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est fait voir à Simon. »
Eux racontent ce qui est arrivé sur le chemin et comment il s'est fait connaître d'eux au partage du pain.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, je commence par une citation de l'écrivain français Jean Guiton. S'il fallait donner tout l'Évangile pour une seule scène où il soit tout entier résumé, je n'hésiterais guère, je désignerais les disciples d'Emmaüs. Eh bien, en effet, avec cet épisode du récit de Luc, nous sommes en présence non seulement d'un tableau merveilleux, mais aussi d'un récit qui va faire le lien entre le temps de Jésus, sa vie, ses apparitions, et le temps de l'Église, c'est-à-dire la rencontre de Jésus dans le repas du Seigneur.
Eh bien, Georges, plusieurs questions sont posées par ce récit. D'abord, cette rencontre a-t-elle pu avoir lieu le jour de Pâques? Et où se trouve cet Emmaüs? Et pourquoi Jésus n'est-il pas reconnaissable au premier abord? Puis cette dernière question, ce repas est-il une Eucharistie?
Voilà bien des questions. Eh bien, commençons par la première. Quand cette apparition a-t-elle eu lieu? En effet, Luc a rassemblé le même jour, c'est-à-dire le jour du dimanche de Pâques, toutes les apparitions de Jésus. Et même, Il va terminer cette journée avec le départ de Jésus, son ascension à Béthanie. Alors, est-ce qu'il faut prendre cela comme une réalité chronologique? Eh bien, probablement pas, d'ailleurs. Dans son deuxième livre, Les Actes des Apôtres, Luc va donner une autre séquence de ces événements. En effet, dans les Actes, le temps qui sépare le matin de la résurrection, matin de Pâques, du jour de l'ascension, eh bien, c'est 40 jours. Et dans toute la Bible, bien sûr, ce chiffre est symbolique. C'est le temps de la maturation d'une personne, la maturation d'un peuple ou la maturation d'un événement. Il faut 40 ans pour former le peuple de Dieu dans le désert. Il faut à Jésus 40 jours de retraite pour se préparer à sa mission. Rassembler toutes les apparitions en une seule journée, comme Luc le fait dans l'Évangile, peut vouloir dire symboliquement que la résurrection et la montée vers le Père sont une seule réalité, sinon un seul et même événement.
Où se trouve Emmaüs?
Mais nous ne savons pas très bien. Les traditions donnent au moins 4 villages possibles. Et ils sont tous à une distance de 12-13 kilomètres de Jérusalem. Ces villages se trouvent cependant tous dans une même direction. À l'ouest, sur la route de Jaffa, une petite ville qui est aujourd'hui englobée dans l'immense ville de Tel Aviv. La route de Jaffa, c'est une des 3 grandes routes commerciales qui sortent de Jérusalem. Les 2 autres sont celles qui mènent ou vers l'Égypte ou bien vers la Syrie. Or, ces 3 routes sont l'objet de l'attention de Luc. Dans les Actes, il va nous dire que c'est sur la route de Gaza, donc la route qui mène vers l'Égypte, que l'eunuque éthiopien va avoir l'apparition du diacre Philippe. C'est aussi dans les Actes sur la route de Damas, celle donc qui va vers la Syrie, que Paul, le futur apôtre Paul, va recevoir l'apparition de Jésus. Alors on peut se poser la question, est-ce que Luc n'a pas voulu signifier, en prenant cette apparition de Jésus sur la route de Jaffa, que depuis Pâques, la mission de Jésus déborde les limites d'Israël et qu'elle va s'adresser à tous les peuples? Et cela, ce serait bien sûr en conformité avec le message de Jésus ressuscité. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire faites des disciples dans tous les peuples et ne vous limitez plus seulement au peuple d'Israël.
Pourquoi ne reconnaît-on pas Jésus au premier abord?
Eh bien, c'est ainsi dans tous les récits des apparitions. Souvenons-nous, Marie-Madeleine prend d'abord Jésus pour le jardinier. Les 11 vont croire voir un esprit. Dans le récit de Jean sur le rivage du lac, les disciples voient un inconnu sans savoir que c'est Jésus au premier abord. À Emmaüs, Jésus va être seulement reconnu à la fraction du pain. Alors faut-il penser que ces apparitions ne sont pas réelles, qu'elles sont seulement des manières symboliques de parler? Ben disons d'abord que ces apparitions sont racontées selon un genre littéraire propre. Le Seigneur est véritablement ressuscité, dit-on, il est apparu à Simon. Eh bien, le verbe employé « il est apparu » est un terme technique dans la Bible où il décrit les apparitions de Dieu. Nous allons donner 2 exemples. L'un se trouve dans le livre des Actes où il s'agit de Jésus.
Dieu l'a ressuscité des morts et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, eux qui sont maintenant ses témoins.
Et le second, nous allons le prendre dans la Genèse où il ne s'agit plus alors de Jésus mais de Dieu.
Le Seigneur Dieu est apparu à Abraham.
Alors, que veut dire le choix de ce verbe « est apparu » qu'on pourrait d'ailleurs aussi traduire littéralement par « être vu » ? Eh bien, nous avons vu que c'est employé d'abord pour Dieu. Ce choix peut signifier que Jésus appartient maintenant au monde divin. C'est ce que Paul expliquera dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15.
Le premier humain, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam, esprit vivifiant. Le premier humain, issu du sol, est terrestre. Le second homme, lui, vient du divin.
Voilà, alors le dernier Adam, bien sûr, c'est Jésus, et il vient du divin. Mais pourquoi Jésus n'est-il pas vu au premier abord? Eh bien, Jean va dire dans tout son écrit évangélique que Jésus va être glorifié par sa mort et au-delà de sa mort. C'est souvent le terme que Jean va employer pour parler de la résurrection. La gloire, ici, eh bien, c'est la puissance divine de l'amour. À travers cette mort d'amour qu'est la mort sur la croix, Jésus est transformé, son être est transfiguré, et il est transfiguré par un mode d'être nouveau, fait d'amour et de lumière. C'est aussi, d'ailleurs, dans le livre des Actes, sous forme d'un être de lumière, que Jésus est vu par Paul. Jésus ressuscité n'appartient donc plus à notre mode terrestre d'être, à notre mode temporel. Il n'est plus donc visible par des yeux d'humains qui sont temporels, mortels. Jésus doit donc se faire voir. C'est lui qui en prend l'initiative. De la même manière d'ailleurs que Dieu doit se faire voir puisqu'il est invisible à nos yeux mortels. Et que lorsque Dieu se fait voir, il le fait par l'intermédiaire des anges, ses messagers. Jésus, lui, va se faire voir en reprenant la forme humaine qu'il avait, une forme visible. Une forme donc qui est réelle, Jésus en effet se fait toucher, il mange même avec les siens. Mais cette forme est occasionnelle, elle est passagère. Et c'est pourquoi Jésus redevient invisible dès qu'il s'est fait reconnaître. Cela, à mon sens, ne doit pas mettre en doute la réalité de la résurrection et des apparitions. En effet, la résurrection de Jésus ne nous est jamais présentée dans les Écrits comme le fruit de la foi des disciples. On sait bien combien les disciples ont eu du mal à croire en la résurrection. C'est lui, Jésus, qui se fait voir, et non pas eux, qui ont le désir très fort de le rendre visible pour perpétuer son souvenir. D'autre part, dans les Écrits, la résurrection est présentée comme le grand fait, le fait même unique, sur lequel s'appuie le témoignage des disciples. 25 ans après Pâques, Paul écrira dans la première lettre aux Corinthiens.
Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Christ est mort pour nos fautes selon les Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. Il s'est fait voir à Céphas, puis aux 12. Il s'est fait voir à plus de 500 frères. La plupart demeurent en vie jusqu'à présent. Il s'est fait voir en tout dernier lieu, à moi aussi, comme à l'avorton.
Oui, il s'est fait voir. Paul transmet ce que lui-même a reçu. Il n'innove pas. Il le transmet à la suite de ceux qui ont été constitués témoins parce qu'ils ont vu. C'est ce que Pierre va dire au moment de baptiser le centurion romain Corneille.
Et nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait. Dieu l'a ressuscité. Il lui a donné de se manifester aux témoins que Dieu a choisis, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection.
Cette apparition de Jésus ressuscité n'est donc pas présentée comme un symbole, une idée, mais un fait. Alors peut-être que certains seraient tentés de dire, mais il est normal dans le fond que Dieu ressuscite Jésus, puisque, d'une part, tout humain est appelé à vivre après la mort, et puisque nous avons une âme immortelle. Eh bien, Paul, lui, argumente d'une autre façon.
Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts?
Eh bien, on le voit, pour Paul, notre propre résurrection n'est pas justement un fait naturel. Elle découle de celle de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui établit la nôtre. Et Paul même ira jusqu'à dire, s'il n'y a pas de résurrection des morts, eh bien, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Si Christ n'est pas ressuscité, non seulement notre prédication est vide, mais vide aussi est notre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas.
Voilà, une prédication vide, un faux témoignage, une foi vide, et Paul va même poursuivre.
Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les humains.
Et il réaffirme donc avec force sa foi en Christ ressuscité.
Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui sont morts. Le repas d'Emmaüs est-il une Eucharistie?
Comme il était à table avec eux, ayant pris le pain, il dit la bénédiction, et ayant partagé le pain, il le leur donne. Eh bien, on aura remarqué que les mots que Luc utilise ici sont ceux du dernier repas. C'est à ce geste que les yeux des disciples vont s'ouvrir pour reconnaître Jésus. Alors, ce repas est-il une Eucharistie? Certains spécialistes disent... Mais non, il n'est pas possible que Jésus ait refait l'Eucharistie. Écoutons l'un d'eux, Gilles Aide.
Puisque le Christ était présent d'une manière visible et sensible, le sacrement de sa présence et de son sacrifice n'aurait pas été en situation. C'est précisément l'absence du Christ au niveau sensible qui appelle les sacrements.
Bon, cette objection ne me convainc pas. D'abord parce que Jésus... a fait lui-même le premier sacrement, il était sensiblement présent au dernier repas, et puis ensuite parce que cette objection me semble réduire l'Eucharistie à être la simple présence physique de Jésus. Or, l'Eucharistie est plus que la présence, c'est une action de Jésus. C'est un geste que Jésus a fait et qu'il nous demande de refaire. Or, quel est ce geste? Eh bien, ce n'est pas bien sûr seulement de partager du pain. On ne reconnaît pas Jésus parce qu'il avait une façon toute particulière de partager le pain. Mais c'est le geste de signifier son pardon d'amour par sa vie livrée.
Ici, il n'est pas très facile de comprendre cela.
Oui, et je pense que nous pouvons donner deux raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à comprendre, à bien comprendre l'Eucharistie. D'abord, parce que pour nous, le repas a souvent perdu son sens sacré. Or, pour un oriental, et surtout du temps de Jésus, mais c'est encore vrai aujourd'hui, le partage du pain est un geste chargé d'un sens symbolique très fort. Partager le pain signifie que l'on est en communion profonde, que l'on est ami. Dans la langue française, nous avions d'ailleurs cette réalité, puisque le mot « compagnon » rappelle ce sens-là. Être compagnon de quelqu'un, c'est partager le même pain. Le mot « compagnon » vient... du latin « cum panis » qui signifie « celui qui mange son pain avec quelqu'un ». C'est le sens du mot « copain » qui est une abréviation de « compagnon ». Manger ensemble, c'est donc plus que prendre de la nourriture ensemble. C'est tisser des liens d'amitié, célébrer les liens qui nous unissent. Et Jésus a souvent célébré cette amitié intense, sacrée, qui l'unissait à ses disciples et qui intégrait dans sa communion, ceux qui partageaient son message, son évangile. Il y a en effet toujours un lien étroit entre le partage du pain et le partage de la parole. Les Juifs célébraient, et célèbrent toujours, leur communion avec Dieu au cours de repas qui sont des repas sacrés. Il y avait le repas pascal, bien sûr, mais aussi le repas du samedi, le repas des sabbats. Ces repas, eh bien, il commence toujours par le pain que le président partage à tous, et il continue par le partage de la parole de Dieu, le partage de la Torah. Un dicton juif dit « Chaque fois que deux ou trois partagent la Torah, Dieu est présent au milieu d'eux. »
Jésus a repris et actualisé cette idée autour de sa personne en disant « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, « je suis au milieu d'eux ».
Effectivement. Eh bien, les deux disciples d'Emmaüs vont reconnaître que Jésus est au milieu d'eux parce qu'ils sont réunis en son nom, en son amour, et qu'ils ont partagé sa parole. C'est le partage de la parole sur le chemin qui a en effet réuni dans l'amour de Jésus les deux compagnons d'Emmaüs.
Thank you.
Alors nous avons du mal, nous disions, à comprendre l'Eucharistie parce que nous n'avons plus ce sens d'un repas sacré ou le partage de la parole réunit dans une même amitié, dans une même communion, ceux qui prennent un repas ensemble. La deuxième raison pour laquelle il n'est pas facile de comprendre le geste de Jésus lors du partage du pain qu'il a fait dans le dernier repas, eh bien c'est parce que nous sommes habituellement avec une compréhension insuffisante du pardon. Souffrir d'amour pour pardonner n'est pas un geste que nous faisons spontanément. Nous voyons trop souvent le pardon comme l'oubli de la faute, alors que le pardon devrait être un souffle d'amour qui est offert pour guérir celui qui a fait mal. En effet, celui qui ne souffre pas de l'offense qu'on lui a faite ne peut sans doute pas vraiment guérir l'autre car il est indifférent. Il n'a pas un amour vrai. Or, sur la route d'Emmaüs, Jésus va ouvrir les disciples au sens de sa mort. Écoutons le texte.
Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne.
Ne fallait-il pas qu'il souffre cela pour entrer dans sa gloire? Eh bien, entrer dans la gloire, c'est entrer dans la sphère de l'amour, c'est se laisser envahir par un amour qui est immortel, qui vient de Dieu. Celui qui a sauvegardé l'amour dans son cœur jusqu'à la mort, lui, va justement être relevé de la mort. Thérèse d'Avila disait, « Aimer, c'est souffrir beaucoup pour ceux qu'on aime. » Eh bien, pour nous aimer, et pour nous aimer jusqu'au bout, Jésus a souffert d'amour.
Un beau film, La Dernière Marche, illustre bien cette expérience de la souffrance comme source de pardon. Il s'agit d'une religieuse qui accompagne les derniers jours d'un condamné à mort. C'est par la gratuité de son amour qu'elle va parvenir à sauver cet homme. Un homme qui avait violé et tué, et qui refusait d'avouer aux autres et à lui-même son méfait. Il découvrira qu'il est aimé par cette religieuse. Avec elle et par elle, il apprendra ce qu'est vraiment l'amour gratuit. Avant de mourir, il avouera son meurtre et alors la vérité le rendra libre. En livrant son dernier souffle, il pourra rencontrer le regard de cette religieuse. « Regarde-moi, lui dit-elle. Mes yeux, mon regard, te diront que tu es aimé de Dieu, que tu es fils de Dieu. »
Et justement, le film montre très bien que pour que l'amour de cette religieuse soit porteur de vie et de pardon, eh bien, il lui a fallu souffrir. Elle a souffert de la haine des parents, des victimes, ses parents qui ne sont pas prêts au pardon. Elle a souffert de la part de certains de ses amis noirs qui s'étonnent qu'elle accompagne un meurtrier blanc qui tient des propos racistes. Et elle a fallu qu'elle souffre aussi de sa famille qui s'inquiète, de l'aumônier de la prison qui a un jugement très, très fort sur le meurtrier. Oui, pour entrer dans l'amour, il faut souffrir. Eh bien, pour reconnaître le ressuscité, il faut d'abord connaître le sens de sa mort sur la croix. Et le sens de cette mort sur la croix, c'est une souffrance d'amour qui apporte le pardon. C'est ce que Jésus a tenté de faire comprendre aux deux disciples sur le chemin. Et c'est ce sens-là qu'il avait donné au partage du pain lors de son dernier repas. Ce pain partagé est le signe de ma vie livrée par un amour qui sera source de pardon. En effet, Jésus a célébré ce dernier repas alors que Judas va le trahir, que Pierre va le renier, que les autres vont l'abandonner, et il veut leur manifester qu'il va les aimer jusqu'au bout, qu'ils seront pardonnés, qu'à leur refus, qu'à leur rejet, qu'à leur reniement, il n'opposera que le pardon de son amour. En leur partageant ce pain, le Maître Jésus dit à ceux qui le renient, « Je vous aime en livrant ma vie. » Eh bien, en partageant à nouveau son pain, le ressuscité rappelle aux deux amis de la route d'Emmaüs ce qu'il leur a fait comprendre, justement, en leur expliquant les Écritures. Voilà le sens de la vie livrée par amour comme une source et une force de pardon.
Le fait que Jésus ressuscité mange avec les disciples qui l'avaient abandonné indique qu'il les a admis de nouveau en tant qu'amis à sa table. C'est un signe manifeste de pardon.
Oui, et c'est ce que les disciples d'Emmaüs comprennent, et alors là, leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent que Jésus est au milieu d'eux.
Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous ouvrait la compréhension des Écritures?
Oui, pour reconnaître Jésus, il faut donc plus que les arguments des témoins qui l'ont vu, il faut que le cœur spirituel soit sur la longueur d'onde de l'amour, du don de soi. Et c'est ce que Jésus a demandé. Pour venir au repas de Jésus, il faut avoir pardonné à celui qui nous a fait du tort, il nous faut avoir demandé pardon à ceux que nous avons offensés.
Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère.
Être disciple du ressuscité, c'est donc être témoin de la force de réconciliation qui se trouve dans la mort de la croix. C'est ainsi que Paul décrira la mission de l'apôtre chrétien.
C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous c'est Dieu qui nous adresse un appel. Dans l'amour du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
C'est donc dans la mesure où les chrétiens seront des ambassadeurs de réconciliation que d'autres pourront dire à leur tour, « Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. »
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous. Nous vous donnerons avec joie l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical, enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.